Chères auditrices, chers auditeurs de FM+, bonsoir. Nous sommes le mardi 17 juin, il est 21h et nous sommes dans les studios pour vous donner à entendre la lecture des textes écrits à notre atelier d'écriture radiophonique hebdomadaire. Petite chose pour une grande espérance. Et cette petite chose, plus elle est fragile, plus on la protège, plus elle a de valeur. Voilà ce que nous vous disons ce soir. Avec, par ordre d'apparition, Nanou, Ségolène, Lies, Christine, Nicole, Adrien, Pierre Lune, Eric, Sophie, Carolina, Marie et Barbara. Nanou, nous t'écoutons.
C'était à Monaco, restaurant le Louis XV, Alain Ducasse. Le raffinement extrême. J'ai 60 ans depuis ce matin et la personne la plus chère à mon cœur m'a emmenée ici, dans ce lieu réputé pour faire partie intégrante de l'art culinaire mondial, classé parmi les plus grandes tables, sinon la plus grande. S'il nous est souvent arrivé de goûter les expériences de lieux étoilés, celui-ci va transformer en quelques heures seulement notre culture du goût, notre perception de la gastronomie, notre amour de la dégustation. Je sais qu'il y a un très bel hôtel qui nous attend ce soir. Je sais qu'une belle enveloppe m'attend et que son contenu sera jeté en pâture sous forme de jetons sur un des tapis rouges du célèbre casino de Monte-Carlo, à quelques mètres d'ici. Dans la grande salle du Louis XV, ce n'est ni le mobilier, ni la vaisselle qui nous impressionne le plus. Tout s'inscrit en douceur, dans une élégance, un raffinement, une discrétion qui font de ce moment une véritable œuvre d'art, un moment hors du temps, un moment de bonheur comme on n'en vit que quelques-uns. Je n'ai jamais pu expliquer pourquoi, mais je savais pertinemment que mon cadeau, mon vrai cadeau, celui qui allait enrober tout mon être d'une douceur et d'une joie indicibles, était là, sous mes yeux, planté au beau milieu de cette grande nappe immaculée, entourée d'un simple papier blanc. Si ma présence, en ce lieu exceptionnel et en si merveilleuse compagnie, constituait à elle seule le plus beau cadeau qui soit, j'éprouvais une envie à la fois urgente, impatiente et excitante d'ouvrir ce paquet, longiligne, haut de 20 cm, qui ne pouvait contenir qu'un petit objet anodin, un petit plus qui avait probablement pour mission de graver ce merveilleux moment dans mes 30 prochaines années. Alors, je n'ai pas les mots pour vous décrire ce que j'ai ressenti en déballant ce petit paquet blanc que j'avais tant attendu. Un petit totem à la tête de singe, fait d'os et d'ébène, sur son merveilleux socle, me regardait fixement, l'air sérieux, réconfortant et grave à la fois. Il était accompagné d'un petit mot. « Bonjour, je m'appelle Anou. Je viens inaugurer cette nouvelle partie de ta vie. Je suis là pour répondre à tes questions, à réaliser tes rêves, à apaiser tes tourments. Je peux évoquer les anciens, réduire les descentes aux enfers, défier les prophéties, apaiser tes chagrins, calmer tes angoisses et parler en silence le langage du cœur. » Anou ne m'a jamais quitté. Il me rassure, me promet, me conduit vers la pensée. Merci Anou, mon objet de pensée. Tu n'as plus rien d'un objet, hormis les quelques grains de poussière qui te trônent sur le crâne.
Merci Nanou. Waouh. Part comme ça. Yes. Ségolène. Ségolène, c'est à toi.
Toutes mes possessions sont récentes. Rien ne vient de bien loin. Une année, je suis partie vivre avec mon sac à dos. Alors j'ai laissé 2-3 vêtements et quelques livres chez mes parents et j'ai dit, vous pouvez jeter tout le reste. Un peu pressante, c'était comme si tout m'encombrait, comme si je sentais le poids de chaque objet dans mon corps et que je devais m'en débarrasser au plus vite. Rien ne me vient de bien loin. Le coquillage offert par Maya, la pierre australienne de Curran, le scarabée d'Alexis. Que des choses qui tiennent dans le creux de la main et qu'on peut serrer très fort. Rien n'a plus de 5 ans. C'est comme si j'étais née hier. C'est drôle d'avoir 30 ans et d'être née hier. Comme si hier, je m'étais faite. À partir de plein de petits morceaux d'argile. J'ai noué des parts de moi avec des parts des gens que j'aime. Et ces gens m'ont reconnue dans des objets. Des objets qu'elles m'ont offerts. Dans des coquillages, des pierres et des scarabées. Je les ai incorporés, ingérés, désintégrés. Et je suis devenue à la fois coquillage, pierre et scarabée. Je suis devenue un peu talisman. Je noue des parts de moi avec des parts des gens que j'aime et ce sont autant de pierres précieuses ou banales, des pierres mondes qui infusent dans mon estomac. Je suis devenue aussi certaines pages des livres que j'ai lus. Je suis devenue l'éloge du risque. C'est Marie qui le lisait. J'ai des petits bouts de Marie à l'intérieur de moi. Je suis née à travers toutes les fois où on sautait dans le risque avec Marie, où on domptait la peur. Pour m'inspirer, faire naître la sensation de confiance et de force en moi, je trimballais le livre partout. La couverture a tellement vécu, le titre s'est éparpillé, mot après mot, et la couverture ne protégeait plus rien. Alors j'arrêtais de l'emmener partout. J'ai sûrement trouvé d'autres livres à user, à intégrer jusqu'à la moelle. De nouveaux mots, desquels me modeler. C'est touchant un livre tout abîmé, dont les pages se détachent. C'est comme accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, tout garder à soi dans son confort coffre-fort. Ça me toucherait de tomber sur des pages de livres solitaires dans la rue. Ça ne m'est jamais arrivé, je crois. Mais une fois, j'ai trouvé une note sur le trottoir pendant une fête de la musique. Quelqu'un qui s'écrivait des conseils inspirants, qui se considérait comme le météorologue de ses émotions. Le soir, j'ai fini dans le loft d'une amie de Marie. Elle est venue avec un garçon qu'elle avait rencontré dans les rues, en fait. À l'aube, on a réalisé que c'était lui la note, lui le météorologue. J'ai gardé cette note précieusement dans une ancienne conserve de sauce harissa. Dans ce pot, j'ai stocké tous les mots d'amour qu'on m'a écrits, les post-it accrochés sur les miroirs des salles de bain qui disent « Bisous ma croquette », les cartes écrites pour les anniversaires, les notes météo trouvées sur les trottoirs. Tous ces mots apportent bonheur. Encore des mots dont je me suis faite.
Merci Ségolène. Un livre ruiné. Merci beaucoup Ségolène. Lies, ça fait longtemps que t'étais pas venue. Et tu es là. Alors, si tu veux bien, c'est à ton tour.
Il était, bien plus d'une fois, un père et son fils. Jeune, très jeune le fils, genre 2 ans. Et très vieux le père, genre la trentaine, mais des rides à l'estomac et des nœuds au cerveau, à courir après le temps. Le genre de vieillesse qui ne s'affiche pas sous peine que l'autre en crève. Les rides à cause des peurs qu'on farde, les nœuds parce qu'après chaque calcul, il n'y a pas un pli, on perd. On perd au change, alors on prend, on vole, on range et on s'arrange comme on peut avec sa raison qu'on modèle. Sa vision comme modèle. Mais pour construire une raison viable, on crée ses propres saisons. Sinon, on tourne qu'en boucle. On tourne qu'en boucle, de toute façon, c'est physio-cosmique. Ou cosmologique, ou physio-cosmicologique, qu'en sais-je. Une fois qu'on a tout vu, tout fait, senti, goûté, vomi, digéré, construit, anéanti. Une fois qu'on a douté, compris et appris que pour naître vraiment, mieux vaut mourir 1000 fois, alors on rit. On rit sans crainte, parce qu'après tout ce temps à chercher le chemin juste, les sorties de piste, les raccourcis, les chutes, les risques, les choix, il reste qu'une route, la sienne. La seule valable, celle qu'on ne choisit pas. Et bien plus d'une fois, voire toutes les fois, c'est l'enfant qui lui dit au vieux, encore faut-il qu'il l'entende, que quand on n'est pas sûr, on sait, et aucun risque de choir là où la certitude est un écueil. Il lui apporte un minuscule caillou qu'il tient précieusement entre ses mains et lui dépose délicatement l'objet par terre, du bout du pouce et de l'index, délicatement sur la dalle de béton où il s'est assis en ce début de soir brûlant d'été en ville. Puis viennent 2 feuilles, puis 3 ridicules brindilles et un noyau d'olive. Dans cette cour de 30 mètres carrés bétonnée, le sauvage a planté un olivier et c'est dessous à l'ombre qu'il est assis le père. Et les milliers de petites pierres blanches que le sauvage a achetées dans une jardinerie pour faire office de sol pur, qu'il faut entretenir pour que rien n'y pousse, que le sauvage est trop pieux pour se pencher lui-même. Alors il paye un jardinier qui lui-même sous-paye un ado non déclaré pour venir 2 fois l'an arracher brin par brin l'affreuse herbe qui tente en vain de reciviliser l'espace. Ces petites pierres s'enfoncent jusqu'à l'os dans la chair de ses fesses au père. Et qu'est-ce que la douleur face à la dextérité du futur qui dépose la connaissance à mes pieds, se dit-il maintenant. Alors il se lève, rassemble les reliques une par une dans le creux de sa main droite et dit au môme tout fier, « Viens, on va créer un sortilège. »
Merci, Lies. Ah, merci pour ce très beau et très amical et bienveillant sortilège. Merci beaucoup. La radio, c'est du sortilège. Vous êtes derrière un mur et puis nous, on est là quand même. Yeah, sortilège. Merci, Lies. Ton micro est ouvert.
Petite vache recouverte de mosaïques, de petites pierres aux couleurs multiples. D'où viens-tu ? Je ne m'en souviens plus. Un souvenir de vacances rapporté d'un pays d'Afrique dont les cultures et les couleurs sont aussi diversifiées que celles qui ornent ton corps. Certaines personnes partent en Afrique pour chasser le gibier et revenir triomphantes avec un trophée interdit dans leur valise. Mais cette petite camarade de classe s'est contentée de ce bibelot. Est-ce qu'elle en a offert un à toute la classe ou seulement à mon fils, en petite admiratrice secrète qu'elle était ? Je ne m'en souviens plus. Petite vache en mosaïque, Quand je te regarde, je vois le sable du désert traversé par le bleu des Touaregs sur leurs chameaux. Je vois les femmes, leurs bébés accrochés sur leur dos, dispersant avec leur balai de fortune la poussière devant la porte de leur demeure. Je vois le feu de bois qui crépite sous les marmites dans lesquelles mijote le repas. Je vois ces langes de toutes les couleurs étendues sur les cordes à lessive et qui oscillent au gré du vent. Des bleus, des verts, des blancs, des rouges et des jaunes qui rappellent le soleil généreux. Je vois ces hommes et ces femmes qui se réfugient à l'ombre des immenses baobabs. J'entends le chant incessant des grillons, la sonnette du marchand de thé, le klaxon des voitures et le pot d'échappement des motos qui pétaradent. J'entends aussi le brouhaha des voix, des hommes et des femmes sur le marché, criant à qui mieux que leur marchandise est meilleure que celle de leurs voisins. Je vois les artisans et leur savoir-faire qui trop souvent, chez nous, a disparu au détriment de vêtements, de chaussures ou de sacoches fabriquées par des machines et jetées à la première occasion. Si je prends du recul, un peu de hauteur, je peux observer des paysages arides, des contrées en guerre, des milliers de personnes déplacées à cause de la souffrance, de la maladie ou de la famine. Mais je peux également observer des pays avec une jeunesse débordante d'énergie et d'idées nouvelles, des villes qui se construisent, des arbres qui verdissent les grandes avenues. À plusieurs reprises, tes jambes fragiles se sont brisées. À chaque fois, je tente de les recoller. Pas pour mon fils qui n'est pas attaché aux objets. Je le fais pour moi ou pour toi. Je l'ignore, mais peu importe. Parce qu'à ta vue, mes pensées vagabondent. Tu me permets de voyager, de rêver. Il y a quelques jours encore, je te portais au creux de ma main. Tes deux pattes arrière sont à nouveau cassées. Peut-être serait-il temps que je me sépare de toi. Mon fils est parti depuis longtemps, sans toi. Mais je me suis contentée de te reposer délicatement à ta place sur la petite commode.
Merci Christine, comme elle est jolie ta vache. Ah, elle est jolie. Merci Christine. Ah. Alors Nicole a mis un casque et elle part à 140 km/h comme d'habitude. Et donc le départ est annoncé.
Une statue à la Ousmansow, longue ébauche de bois crotté ou de terre rugueuse. Silhouette solitaire improbable, aux abords des troupeaux, dans un Sénégal sec et dur, où la poussière du soir déforme le paysage, créant des lignes vibrantes juste au-dessus de l'horizon. Ou bien une statue à la Christian Lapi, phénomène longiligne de bois noir frotté de goudron, promenant son énigme aux abords des champs de bataille de la Marne. Une statue de bois, en tout cas, sans nom, sans date, sans auteur, mais née d'un arbre dur, poli par des mains habiles, qui ont dressé ses fesses minces et musclées au bout de jambes qui n'en finissent pas de monter, de s'élever. Cambré à l'infini, son buste jaillit, plus nu que s'il était de chair. Sa tête fière, aux cheveux tressés, sa cambrure, ses jambes intensément fines, tout proclame et clame l'Afrique. L'Afrique des peuples qui marchent. Mais là où elle est arrivée, il n'y a pas d'issue, sinon celle des discours et des portes de secours. Là où elle est arrivée, elle a été posée au milieu d'objets hétéroclites, à la dette de fraîcheur largement dépassée. Une non-œuvre qui pue un peu pour des non-spectateurs ébahis. La statue semble s'effacer au fur et à mesure que les regards du public la frôlent et s'en détournent. Ici, le regard et les discours sont rois, tout le reste disparaît. Seul le regard donne vie, et chacun retourne à son sommeil éternel, chaque fois que la pièce se vide de ses spectateurs. Dans chaque pièce, à côté des œuvres, des phrases scotchées présentent ce qui est exposé. Des mots s'emballent, esquissent des mondes désarticulés, désignent des issues prophétiques à des lecteurs abasourdis, dont le désir de comprendre est resté au vestiaire. Mais la statue africaine veille encore. Elle semble même s'animer, comme au souvenir du bruit des langues qui claquent sur les palais pour appeler les troupeaux le soir au bord de l'eau. Elle semble même frémir, comme émue par la brise que le soir charge d'odeurs âcres, d'herbes tassées par le pas des bêtes remontant vers le village. Elle semble encore vibrer sous le martèlement des animaux en rang serré et têtu, dont les bêlements couvrent à peine les cris des bergers attachés à leurs pas. Silhouette verticale, fièrement dressée, la statuette veille sur ce fatras occidental, bavard et distrait. Sur son visage buriné, lisse comme un velours sous le doigt, un fragile sourire a glissé. Seul le jeune gardien campé dans la pièce a surpris ce mouvement sur le bois sculpté, frottant ses yeux de surprise. Trop de fatigue, sans doute, se dit-il. Il a fermé les yeux. Des images montent, comme un rêve, derrière le voile de ses paupières baissées. Un troupeau de buffles qui s'avance dans la lumière orangée d'un soir dans la savane ardente.
Yeah, Nicole, merci. Une non-œuvre qui pue. Ah, si vous aviez été là ce soir, vous auriez très bien compris ce que c'est qu'une non-œuvre qui pue. Mais peut-être vous comprenez, hein, probablement. Merci, Nicole. Alors, c'est au tour d'Adrien qui a failli se faire doubler dans le virage, mais non. C'est ton tour, Adrien. Mets ton casque tranquillement. Voilà, allume ton téléphone. Allez, c'est trop fort peut-être dans le casque, mais on verra tout à l'heure. Allez, nous t'écoutons.
Le katana est un sabre forgé au sang et à la sueur de plusieurs forgerons qui tapent avec des marteaux plusieurs fois pour faire plusieurs couches. Et ces gens-là le font sans machine, juste avec la force de leurs bras et de leur mental. Même si la chaleur est très intense, ils continuent de taper encore et encore. Si seulement ils pouvaient prendre une pause pour reprendre des forces, ça serait plus simple et mieux pour leur santé. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Du coup, ils tapent durant des heures sur le métal en fusion pour lui donner une forme et pour lui donner plusieurs couches. Mais ce n'est toujours pas fini. Il faut maintenant faire le tranchant. Et malheureusement, sur ce genre de lame, on aiguise seulement un côté. Et cette forme de courbe que l'on donne à la lame est un point fort et un point faible. À la fois, le point fort et qu'il donne une certaine légèreté, comme la lame n'est pas très épaisse comparée aux épées. Mais malheureusement, sa fragilité est plus grande si la lame est mal utilisée. Il peut se casser sans jamais avoir pu être utilisé. Chaque maître forgeron signe de son nom et donne un certain schéma à la lame. Après, il y a aussi le manche qui est fait dans un bois particulier qui est traité d'une certaine manière pour rester indéfiniment. L'histoire de l'une de ces lames date d'il y a plus de 200 ans. Et pourtant, cette arme est toujours en excellent état. Pour autant, elle est tachée de sang et elle était dans la pluie et plein d'autres choses.
Waouh, bah dis donc, hein. Merci Adrien. Merci, l'histoire d'un couteau. Merci beaucoup Adrien. Alors, Pierre Lune, tu es devant le micro 3. Et le micro 3 est ouvert.
Je ne passais jamais devant la vitrine de l'entrée sans avoir un regard vers elle. Une petite boîte de verre, épais, mais qui laissait toutefois deviner son contenu. Mon regard n'était pas souvent conscient, mais je sais intimement qu'il faisait partie de mon rituel de sortie. Une fois les clés de la maison dans les mains. Rien ne se disait dans ce furtif regard, rien en pensée, rien en mots, mais une plongée vertigineuse dans le temps, fugace, si dense à la fois, un flash, un éclair, une projection dans le temps ou l'espace où je l'avais trouvé. Me traversait alors une fraction de seconde, une joie profonde, cette joie qui me portait lorsque je l'ai ramassée. Le contenu de cette boîte avait changé de nature. Cette poussière noire, aujourd'hui, au fond de cette boîte, avait été une pierre trouvée au fond d'une mine sur le carreau de Lens, dans le nord de la France. Nous étions, mon mari et moi, curieux d'expériences nouvelles. Sortant d'un mai 68, nous avions décidé, oh non, pas d'aller élever les moutons dans le Larzac, non, mais d'aller vivre avec les mineurs, dans les corons, où tout se vit près de la mine. Quelle idée saugrenue! Je ne saurais ici parcourir le chemin de pensée qui nous y a amenés, et surtout, les réactions effrayées de notre entourage. Bref, cette poudre, au fond de la boîte, avait été une pierre grise anthracite sur laquelle était parfaitement dessinée une feuille de fougère. Elle gisait au fond de la mine où nous étions descendus, et comme à l'époque, il était interdit aux femmes de descendre dans les mines, j'étais descendu déguisé en homme grâce à l'appui du chef Porion qui était un ami. J'ai vu cette pierre qui brillait dans l'obscurité. L'eau de la mine qui sans cesse coule le long des parois la faisait brillante et chargée de lumière. Elle est restée visible des années près de la fenêtre, faisant l'admiration de tous. Un jour d'été, 10 ans plus tard, à peu près, je l'ai trouvée en miettes, littéralement explosée. J'étais en larmes, c'était comme un deuil, comme si cette période magnifique disparaissait aussi avec elle. J'ai ramassé la poussière, comme on réunirait les cendres dans une urne, et je l'ai mise dans cette boîte, avec la sensation de la détruire deux fois. J'ai longuement réfléchi à la disproportion de ma réaction. Les objets sont porteurs, parfois, d'une valeur symbolique qui nous dépasse. Cette explosion, cette réduction à l'état de poussière, après avoir été si belle, si magnétique, me ramenaient à l'homme et à sa finitude. La poussière au fond de la boîte est toujours là. Je n'ai plus besoin de l'objet. L'objet est visible dans mon esprit. Le cœur retient ce que le regard ne voit plus. La main, les clés, je ferme la porte.
Merci Pierre Lune de nous avoir ouvert la porte. Magnifique. Ah, merci Pierre Lune. Nous continuons tranquillement. Ah Eric, est-ce que tu es prêt? Ah voilà, bien en face du micro. Très bien, Eric. C'est à toi.
Pourquoi est-il là? Comme beaucoup d'objets qui apparaissent, s'installent chez moi, il est là, en bois. Comment est-il arrivé? Les objets, ils vont. Ils viennent. Source d'imaginaire, de pensée, petite ou grande mémoire. D'un usage domestique, ils deviennent instruments de musique, maîtres de tempo. C'est un peu l'aventure que je laisse à l'œuvre, à l'objet qui devient son. Le mixeur africain. Grand bonheur le jour où il a joué dans un projet de partage de rythme avec des enfants sur le net. Il devint métronome, pulse rythmique, pour évoquer la présence de la musique dans le quotidien de la vie devant soi. Les simples actes de la vie, le grain que l'on transforme en farine dans le mortier en bois d'Afrique. Tac. Tac, tac, le pilon s'élève et retombe, tac, encore et encore. De l'autre main, naît les graves sur le djembé, le temps d'un autre temps, dans un temps sans temps, juste une fois, il était là sous la main pour marquer le temps. Filmé, enregistré, partagé, compilé, monté, il a ouvert la voie à des morceaux de musique domestique. Des percussions variées entre casseroles, bocaux, boîtes, retournées, tac, 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 boum, tac, tac, ta-ta. Au hasard d'un jour, il prend vie pour partager. Le bois résonne contre le bois. Le morceau naît quand l'humain ne résonne plus, quand enfin il vibre. Et fait vibrer la note à chaque contact qui retombe. Au fond du grand bol en bois, aurais-je l'occasion de rejouer? Aura-t-il l'occasion de donner vie par son temps encore, son tempo? De boum. De boum. De boum. De boum. De boum.
Waouh, Eric, merci. Alors, les bruits de table à la radio, c'est pas autorisé, mais alors là, c'était obligatoire. Merci, Eric, merci. Ah, quelle belle émission. Sophie, dans quel univers nous emmènes-tu ? Nous t'écoutons.
Se pencher sur la source, trouver la source, comprendre la source, s'émerveiller de la source. Les actions sont parfois renversantes, à moins qu'elles ne soient renversées ou encore inversées. Parfois, on cherche la source en vain. Parfois, voguant dans une notion de sérendipité, c'est elle qui vous trouve, sans même percevoir ce qu'il en est sur le moment. Pour les objets, c'est pareil. Parfois, vous les cherchez. Parfois, ce sont eux qui vous trouvent. Ce jour-là, le pas était plus pressant que pressé. La fin du périple s'annonçait dans la chaleur de l'été et le chaos des valises, le cri des passants, l'impatience des enfants. La lumière d'une chaleur dégoulinante transperçait la partie du toit en verre du musée pour venir se poser sur nos têtes dont le regard se perdait dans la partie plus sombre de ce dernier. Dans mes pensées, l'objet en question n'avait encore aucune existence, bien qu'il existait dans la matière et que je l'eus possiblement croisé en amont dans le regard vide de notre interconnexion. Mes pensées n'avaient qu'une idée en tête, arriver au bout de la file interminable qui m'autoriserait à voir l'exposition de Munch. Dernières heures d'exposition, dernier jour d'exposition dans ce musée. Dernier jour de mon périple londonien. Autant dire dernière chance. Encore 20 personnes devant. C'est long. Encore 10. C'est encore trop long. J'entends dire qu'ils donnent les derniers tickets. Trop de monde. Vais-je avoir de la chance ? Please ! Ah, c'est mon tour. Je sentais bien que je ne le sentais pas. No more tickets. On me dirige vers une autre exposition dont je n'ai que faire. Déçu, le pas lourd, le pressant est passé au passif pesant. C'est pas possible. Pfff. Ma tête s'égare, mes pieds m'amènent vers une autre allée du musée, une autre exposition, libre d'accès, l'allée des participants perdus, sûrement. Bref, gère et regère la situation, déplaçant ma déception et redirigeant mon énergie vers une autre entrée en matière. Lumière instinctive surfant sur l'émotion passée pour éveiller la prochaine. Au bout de l'allée des participants perdus, j'aime bien la nommer ainsi, sont exposés de petits objets à la vente. Mon regard erre, puis regarde, dans une reliance à l'esprit. Mes pensées observent tandis que mes yeux absorbent, absolument. Les éléphants mènent à la source. Mon errance m'a amené à l'éléphant. Petit éléphant de marbre, petit bougeoir aux couleurs vanille, laissant une place sur son dos pour une petite flamme protégée en devenir. Tilt. Je le prends, je règle le montant escompté. Le passif du pas est passé, le pressant reprenant le pas. L'heure ne s'était pas arrêtée de tourner. Et pourtant, je devais sûrement repartir avec cet éléphant. Parfois, quand je cherche la source, il m'inspire.
Merci Sophie. Un petit éléphant à Londres. Merci Sophie. Ah. Carolina, nous t'écoutons.
Gravé dans le verre, les notes se sont arrêtées là où le sculpteur avait posé sa dernière pointe. Il avait donné vie à une jolie fée, une joueuse de flûte, en l'habillant d'une robe d'été légère, les cheveux souples dans le vent, son instrument de musique collé à ses lèvres. Des notes de musique gravitaient autour d'elle, mais elle ne pouvait pas laisser la place aux suivantes pour révéler la mélodie, car leur créateur les avait figés à jamais dans ce bloc transparent. Il les observait, satisfait du résultat, ignorant qu'il venait de bâtir une prison dont les prisonniers n'avaient aucun moyen de s'échapper. C'était sans nul doute sa plus belle création, si bien qu'il décida de ne pas la vendre et la posa au centre de l'étagère qui se trouvait juste en face de son plan de travail et pouvait l'admirer avec fierté lorsqu'il relevait la tête de son travail. La joueuse de flûte resta ainsi immobile des années durant, incapable de finir son air de musique, regardant avec désarroi son créateur derrière sa glace, créateur et bourreau, qui œuvrait à l'élaboration de nouvelles prisons en verre pour d'autres créatures comme elle. Tel un humain sur terre, elle était à la fois terrifiée et sous l'admiration de son Dieu, qui la regardait toujours avec tendresse, et elle priait qu'un jour il la délivre de sa condition. Mais bien qu'elle fût très impatiente de rejoindre son créateur, l'idée d'être un jour brisée la terrifiait. Elle préféra donc attendre silencieuse, pendant que l'homme travaillait et vieillissait sous ses yeux. Bientôt sa vue fut si mauvaise et ses mains si tremblantes qu'il venait de moins en moins souvent à l'atelier pour travailler et admirer sa belle fée. Et bientôt, il ne vint plus du tout. Le fourneau à la chaleur plaisante et à la couleur apaisante ne s'alluma plus jamais. Elle avait froid et peur. Son créateur semblait l'avoir abandonnée. Elle s'était habituée à ses absences à répétition, mais celle-ci fut bien plus longue et la fée avait fini par s'en inquiéter. Puis, peu à peu, elle avait fini par lui en vouloir, au point de ne plus croire en lui. Et comprit enfin qu'elle méritait certainement ce qui lui arrivait et se résolut à ne pas se briser et l'attendit patiemment. L'atelier resta dans un noir absolu pendant des décennies, jusqu'au jour où des bruits affreux et des tremblements vinrent chambouler la monotonie de sa vie. Les objets autour d'elle s'écroulèrent les uns après les autres. Elle les entendait se briser. Dans un cri affreux, terrible et silencieux, elle frappa le sol couvert d'encombre à son tour et se brisa en mille morceaux.
Merci Carolina, merci. Quel drôle d'atelier. Ah, merci beaucoup. La féerie. Ah, merci Carolina. Marie, c'est quand tu veux.
Chaque été, elles avaient pour habitude de se retrouver dans le sud de la France, à La Ciotat. L'une d'entre elles avait une maison familiale, terrain acheté par ses parents, petite maison en pierre construite par le papa maçon, à une époque où la Côte d'Azur, enfin cette partie-là, était accessible aux Français moyens nés en terre corrézienne. Elles, ce sont quatre femmes, amies fidèles, ou rencontres professionnelles qui, le temps aidant, s'étaient transformées en plaisir de se croiser en ville, envie de sortir au resto et souhait de partager quelques jours de vacances ensemble, à rire, boire du rosé, lire, faire le marché de nuit, boire du rosé, dormir, rire, et ceci dans tous les sens et les combinaisons possibles. L'année avait été marquée par un événement que la presse internationale avait relayé activement. Si traumatisant qu'une marée humaine avait traversé les rues de toutes les villes françaises, scandant d'une seule voix « Je suis Charlie ». Chacune des quatre femmes avait été sidérée, effrayée, déstabilisée, insécurisée et avait dans son village, dans sa ville, crié au droit et à la liberté d'expression. Chacune de ces femmes, à l'école, à la maison, au bureau, avait énoncé haut et fort leur avis, leur soutien. Ces quatre femmes-là étaient à leur façon militantes, engagées et désemparées. Au cœur de La Ciotat existe une petite librairie-papeterie indépendante dans laquelle chaque année elles aimaient déambuler. Odeur des livres, titres et couleurs des premières de couve, petits cartons de mots attachés à quelques ouvrages afin d'inviter le lecteur à s'attarder, sourire et disponibilité des libraires. C'était le rendez-vous annuel, le premier jour après la dépose des bagages et l'installation dans les chambres. Les deux premières destinations étaient le supermarché et la librairie, ou l'inverse, de quoi faire les réserves pour le séjour. Ce jour-là, alors que trois d'entre elles, assises sur le bout du port, jambes ballantes, dégustaient une glace au parfum multiple, la quatrième sortit de la librairie papeterie, trottoir d'en face, avec quatre grands bouts de bois de couleurs différentes, dont, à cette distance, il était difficile de donner une signification. Elle s'approcha et, droite et fière, entendit un à chacune. En s'exclamant, « Liberté, j'écris ton nom !» Des crayons géants. Elle offrait à ses sœurs de cœur des crayons géants, bleus, rouges, verts, violets, de grands beaux crayons en bois taillés en pointe, prêts à l'usage. 10 ans ont passé. La maison de la Ciotat a été vendue. Les quatre femmes s'efforcent de se retrouver une fois par an pour la fidélité, la force que ça génère et la légèreté. Des événements traumatiques, les médias en parlent à l'appel. Des enfants, des femmes, des hommes le vivent dans leur chair. Je ne sais pas pour les autres, mais le crayon géant bleu est toujours là, dans le salon, sous le tableau du peintre Berger. Parfois il s'agite, trace, geste ample, précis ou démesuré. Et puis il revient sans bruit à sa place, au vu de tous, comme un symbole, un rappel, une invitation à ne jamais oublier.
Merci Marie, merci. Un crayon bleu. Un crayon bleu dans la main de la liberté. Merci Marie. Alors Barbara, c'est toi qui as l'honneur de clore le bal. Et donc, nous t'écoutons.
La pupille se dilate. Focus sur le dessus, rebord poussiéreux, jeu de devinettes, sur quoi, sur qui porter le regard. Choisir cerveau droit, renoncer cerveau gauche. Faire coïncider les neurones, convergence, confluence sous influence. C'est devenu une évidence. La vache indienne, ainsi nommée, dans la vitrine du Virgin Megastore, la voilà installée à raconter 1000 histoires. Pas besoin d'y croire. Tout de blanc vêtu, recouverte d'ornements, de paysages, c'est à travers de multiples voyages que son bagage, peu à peu, est venu sillonner son corps. Partout, elle a traîné sa dégaine efflanquée. Rien ne lui a échappé. Derrière ses grands yeux sombres, tout se reflétait. Tout se réfléchissait. L'envie de lait, de viande, de tapis, de cuir. Après tout, l'utilité de l'animal, son exploitation viscérale, elle connaissait. Adulée, adorée aussi dans ces temples où les divinités se jalousent les meilleures places, sur ces bords de route mal éclairés où les chauffeurs se cramponnent à leur volant pour l'éviter. Être une vache indienne, ce n'est pas être une vache charolaise, une vache de cow-boy, une vache sur une brique de lait, le regard bovin. La maîtrise du poids, le port en V des cornes, la longueur des cils, c'est tout un art, un entretien régulier. Déambuler avec des couronnes de fleurs, c'est autre chose que faire la vache qui rit sur un petit bout de triangle pour un fromage fait de croûte et autres détritus laitiers. Chacune sa route, son chemin. Question de chance, de rencontre, de métissage. La vache indienne, vous pouvez lui confier vos secrets, elle sait les garder. Et si vous la regardez bien, elle peut aussi vous en raconter. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, le gong a sonné, indiquant la fin. Une fin pleine de demain, même s'ils sont incertains, faut juste franchir la passerelle.
Yes, alors on a perdu le son. Ah oui, c'est moi qui ai perdu le son tout seul. Hop, je le remets. Excusez-moi, c'est bon. Truc bizarre, hein. Truc de radio. Bon, on a tout entendu, vous inquiétez pas, c'est juste le générique qui s'est coupé. Ouais, bon, merci Barbara, merci beaucoup. Bravo. Je remercie Nanou, je remercie Ségolène, Lies, Christine, Nicole, Adrien, Pierre Lune, Eric, Sophie, Carolina, Marie et Barbara. Bravo. Yeah. Allez. Bon, et si on allait au restaurant ? Ah, on va au restaurant. Allez, on y va. Allez, bon, ben, bonne nuit à l'écoute des programmations musicales. Et bonne journée si vous écoutez la rediffusion du mardi 11h. Bye bye. Free.